faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Mais laisse-moi chez une gueule d'atmosphère.
Voilà, la musique.
Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot.
Là, il a marqué un point.
C'est de dire si dans ma vie, j'ai entendu des conneries. Il est comme ça, jamais, jamais, jamais.
À l'affiche ce soir, c'est l'histoire d'un club de foot égyptien fondé en 1907. C'est l'histoire des footballeurs algériens dans l'équipe du FLN. C'est aussi l'histoire du merveilleux Larbi Ben Barek. Oui, ce soir, c'est le récit du football dans le monde arabe. Entre Beyrouth et Alger, voici la 33e étape de notre grand safari au pays de la culture de masse.
Tu nous prends pour des bourris ?
Oui, 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 ça part.
Ça, c'est un excellent burger.
Winter is coming.
C'est une des grandes expositions du printemps à Paris, foot et monde arabe. Elle a ouvert ses portes il y a quelques jours à l'Institut du monde arabe et vous pouvez en profiter jusqu'au 21 juillet prochain. Cette exposition est sous-titrée « La révolution du ballon rond », mais qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Eh bien ce soir, pour tenter de répondre à cette question, un seul invité au micro d'Inter, mais il est exceptionnel, un maître d'œuvre, il est historien, historien du sport et du football entre autres, commissaire scientifique de cette exposition découpée en 11 tableaux, Yvan Gasteau, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous. Et puis juste avant les Faucons et les Fennecs, il est un peu normand, un peu Touareg, notre Laurence d'Arabie, le Dominique Besnéa. Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Alors au programme ce soir.
Moins sulfureuse qu'elle y paraissait, oui. Magali Noël.
Magnifique Magali Noël, à tout de suite. Et enfin, juste avant 19h, bien sûr, le Give Me Five signé Joy Raffin. Salut Joy.
Salut Colin, bonsoir à tous.
Alors le programme.
Eh bien moi, ce sera Diego sur le tapis rouge, Notre-Dame sur un maillot et un baiser engagé.
A tout à l'heure, surtout n'ayez pas peur et soyez les bienvenus dans l'œil du tigre.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors ce soir on commence avec l'arrivée annoncée cette semaine de Fabien Galthié au chevet de l'équipe de France de rugby dont il devrait devenir le sélectionneur à l'automne prochain juste après la Coupe du Monde. Eh bien souhaitons-lui le même destin que celui du petit caporal, le fantastique Jacques Fourou. Voici le flashback.
Il a toujours su ce qu'il voulait. Batailleur, même lors d'une partie de baby-foot. Jacques, après Cognac, va découvrir l'art de jouer de mine mêlée. Ce sera loin de sa Gascogne, à la Voulte. Très vite, parce que c'était un homme pressé, il devient le numéro 9 du 15 de France, celui de Rives, Crella, Papa Rambord. Mais être numéro 9 ne lui suffisait pas.
Surnommé aussi le petit caporal, Fourou, c'était une voix. La gouaille rocailleuse. Une faconde, une envie de se battre sur tout.
1977, le capitaine va emmener ses hommes, ses grognards, au-delà de leur espérance. Pas de demi-mesure, il sélectionne désormais ses amis, le 15 de France. Ambition décuplée, Blanco, Cella, Berbizier, et c'est immédiatement un grand chelem en 1981.
Bis repetita, 1987, nouveau grand chelem avec de nouveaux tauliers, Ménel, Cella, Blanco, Bonneval, et le relais de Fourou sur le pré, Pierre Berbizier. Avec cette infanterie, il part à l'assaut des antipodes. La Coupe du Monde se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande. Fourou conduit le 15 de France en finale, seulement battu par les All Blacks. Mais personne aujourd'hui n'a oublié la demi-finale à Sydney où les Français terrassent les Wallabies dans les arrêts de jeu.
Il est beau le rugby, mais sans combat, il n'y a pas de rugby. No scrum, no win, disent les Britanniques. Pas de mêlée, pas de victoire.
C'était l'époque glorieuse du rugby français, c'était Jacques Fourou, in memoriam. Bien, dans la foulée du petit caporal, voici le grand capitaine. Après le grognard, voici le tambour. Après la mêlée, voici l'échappée. C'est l'heure du Dominique Besnéard.
C'est fou la vie. Hein.
C'est fou la vie, et ce soir Dominique, on commence par une citation.
Oui, notre vedette de l'écran a inspiré ces quelques mots à l'historien Noël Simsolo. Un châssis arrogant comme une carrosserie Cadillac, une frimousse a poussé les prêtres intégristes à se défroquer, et surtout ce sens de l'humour qui lui valut les valeureuses initiatives de Boris Vian. La sexy Magali Noël maîtrise l'art de l'équivoque.
Une actrice née en Turquie.
À Izmir, précisément. C'est là que Magali Noël Guiffré. Voit le jour le 27 juin 1931. À l'âge de 7 ans, elle rentre en France avec ses parents. Quelques années plus tard, Magali débute dans des revues, puis s'oriente vers le théâtre classique. Sur les planches, elle reçoit un succès considérable en 1954 dans L'amour des quatre colonels de Peter Ustinov, aux côtés d'un débutant nommé Jean Rochefort. Dès 1950, Magali Noël se voit confier des petits rôles au cinéma. Elle joue la lumineuse fiancée de Bourvil dans Seul dans Paris. Je vous promets que ça vaut le déplacement.
Oui.
J'avais l'air d'une petite paysanne normande, pas fut-fut.
Mais Dominique, du jour au lendemain, elle se retrouve à contre-emploi.
Dans la peau d'une séductrice aux lèvres humides, cintrée dans des robes moulantes et le visage maquillé à la Viviane Romance. Décidément, oui, elle nous poursuit.
Oui.
Magali Noël débute ainsi sa carrière avec un contre-emploi sur toute la ligne. À l'instar de Jeanne Moreau ou de Françoise Fabian, elle n'échappe pas à ses archétypes de séductrice fatale et à ses rôles de vamp capricieuse. Avec ses immenses yeux bleus azur, sa bouche pulpeuse et son corps insolent, elle ne passe pas inaperçue dans le polar mythique de Jules Dassin, du Rififi chez les hommes. Elle déploie également toute sa sensualité dans Raja sur la Schnouf d'Henri Decoing, adaptation de la série noire avec Jean Gabin et Lino Ventura, dont c'est la deuxième apparition à l'écran. J'ai vraiment senti que ma vie professionnelle prenait un tournant lorsque Fellini m'a engagé pour la Dolce Vita. Elle commence par refuser le rôle, qui sur le papier ne compte que deux lignes. Mais quelques jours après, dit-elle, j'ai rencontré Fellini, par hasard via Veneto. Il a insisté, il a parlé de mon visage de chat, m'a demandé de lui faire confiance, et ce fut l'un des plus grands succès de ma carrière.
Et pour Fellini, Magali Noël incarne l'idéal féminin.
C'est alors le début d'une liaison cinématographique avec le grand cinéaste. Sous sa direction, elle interprète une énorme matrone romaine dans le Satyricon et une petite coiffeuse au manteau rouge dans Amarcord. En 1969, Magali Noël décroche un rôle important dans Z de Costa Gavras, Palme d'Or à Cannes. Puis avec les années 70, une nouvelle génération de cinéastes l'entraîne dans des registres différents, plus sensibles et authentiques. Chantal Akerman, Claude Goretta, Tony Marshall ou encore Zulawski, pour qui elle joue la mère de Sophie Marceau dans La Fidélité. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontrée.
Ah. Et Magali Noël s'est aussi donné de la voix.
Et en 1956, sa carrière de chanteuse est marquée par la célèbre et scandaleuse chanson « Fais-moi mal, Johnny, Johnny, fais-moi mal ». Premier tube rock'n'roll, écrite par Boris Vian et composée par Alain Goraguer. Magali a été aussi la vedette de nombreuses comédies musicales comme Sweet Charity, où elle reprend le rôle de Shirley MacLaine, et bien sûr Cabaret, mise en scène par Jérôme Savary. Magali Noël reste la seule Française à pouvoir s'enorgueillir d'une très belle carrière en Italie avec plus de 20 films, dont 3 tournées avec Fellini. Statufiée à jamais par l'auteur de la Dolce Vita, Magali Noël est décédée le 23 juin 2015 des suites d'une longue maladie.
Et bien voici Magali Noël et son tube.
Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Oh la vache, oh j'en ai marre alors.
Fais-moi mal, Johnny de Magali Noël, par Magali Noël. On en parle ce soir parce qu'il y a une très belle exposition à la Cinémathèque à Paris consacrée aux influences de l'œuvre de Picasso sur le cinéma de Fellini. Et on croise évidemment Magali Noël à plusieurs reprises dans la rétrospective que Frédéric Bonneau consacre donc à ce dialogue entre Fellini et Picasso.
Et puis on aime vraiment les chansons féministes.
Oui, ça c'est sûr, c'est ça. Absolument. Merci beaucoup Dominique Besnéard. À la semaine prochaine, voici maintenant l'histoire du dimanche soir. À l'Institut du monde arabe, posé le long de la Seine à Paris, on vous y racontera tout au long du printemps 11 histoires. Oui, 11 histoires, comme 11 joueurs d'une équipe de football. 11 histoires pour entrevoir combien la culture du ballon rond traverse toute la société du monde arabe depuis le début du XXe siècle. Et pour tout dire, c'est assez troublant. Par ailleurs, cette exposition inédite a l'excellente idée de s'ouvrir sur le portrait d'une vedette mondiale du football, un esthète oublié, un joueur né à Casablanca en 1917, un créateur d'une rare élégance, le fantastique Larbi Ben Barek, raconté par Thierry Roland en 1963.
Ben Barek, c'est toute une histoire. Les débuts à l'Idéal, puis l'Union Sportive Marocaine, grande vedette du football marocain. En 1939, il traverse la Méditerranée pour signer à l'Olympique de Marseille, alors au sommet de sa gloire. Ensuite, en 1945, il vient à Paris, au Stade français, où il restera 3 ans, avant d'aller 4 ans en Espagne, à l'Atlético de Madrid, et de terminer sa carrière là où il l'avait commencé, en métropole, à l'OM. Le tout jalonné par 16 sélections en équipe de France, dont il fut de longues années l'une des très grandes vedettes. Aujourd'hui, Ben Barek n'est pas entraîneur, car chose curieuse, cet homme qui peut tout faire balle au pied n'a jamais pu enseigner le football. Mais il reste l'idole des jeunes footballeurs marocains, et le plus clair de son temps, il le passe avec les gamins de Casablanca, auxquels il montre ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ainsi, celui que l'on a surnommé la Perle Noire, et qui fut en son temps ce qu'est le fameux Pelé de nos jours, reste en contact avec cette petite sphère de cuir à laquelle il doit tout, un ballon de football.
Larbi Ben Barek, merveilleux Larbi Ben Barek, la Perle Noire. Yvan Gastaud, vous êtes historien, commissaire scientifique de cette exposition à l'Institut du Monde Arabe, avec un parcours, je le disais, qui commence avec un portrait donc de ce Larbi Ben Barek. Pourquoi commencer avec lui et même pourquoi c'était important de commencer avec lui, Yvan ?
Sans doute parce que c'est Larbi Ben Barek est une des premières grandes stars européennes, française bien sûr, mais aussi européenne et aussi dans le monde arabe en quelque sorte. Et donc cette figure un peu initiale hein, est une figure qui a marqué son temps. On a entendu dans l'archive avec Thierry Roland la notion de perle noire, parce que finalement Larbi Ben Barek est à la fois une sorte de figure noire,
bien mais sûr, noire de peau,
noire de peau, mm-hmm. Marocain, mais aussi d'une certaine façon ayant connu une carrière en France, en Europe, en Espagne aussi, puisqu'il a joué à l'Atlético de Madrid. Et en fait, ce joueur est un joueur qui va marquer son temps, un temps qui était compliqué sur le plan politique, marquer son temps non seulement, vous l'avez dit, à travers son panache, mais aussi à travers ses gestes, qui ont fait que finalement beaucoup de joueurs, Pelé parmi d'autres, vont s'identifier à ce joueur, et aussi beaucoup d'entraîneurs qui vont tous chercher, y compris dans les plus petites divisions, une perle noire. Et ça va révolutionner aussi l'image du noir dans le football, qui jusqu'alors était plutôt un besogneux, qui était plutôt dans des parties du terrain, qui était plutôt de porter du ballon pour les autres joueurs,
les attaquants.
Mmh. Alors que là, finalement, l'attaquant vedette, c'est lui.
C'est le créateur.
Mmh. Voilà. Et donc Ben Barek, pour ça, est aussi une star parce qu'il a marqué plusieurs générations de supporters.
Bien sûr.
De part et d'autre de la Méditerranée. Ça, c'est un élément qui compte beaucoup compte tenu de ce moment où le football était quand même encore un peu limité en termes d'impact.
Pelé a dit, si je suis le roi du football, Ben Barek en est le dieu quand même. C'est pas rien comme dédicace de la part du roi Pelé. Donc né en 1917 à Casablanca, moi je trouve ça important de commencer avec lui parce qu'il a un peu disparu des mémoires, Larbi Ben Barek. On va pas se mentir, en Europe, on sait plus trop qui c'est Ben Barek, alors que c'était une immense vedette mondiale du football. Est-ce qu'il est resté populaire au Maghreb, Yvan Gastaud ?
Alors c'est vrai qu'on l'a un petit peu oublié en France, alors à moins que vous interrogiez les générations les plus âgées qui auront peut-être des souvenirs autour de ça. Et c'est vrai que le nom de Ben Barek rappelle certains souvenirs lointain. Au Maroc, il faut considérer aussi que il a joué dans une époque qui était finalement assez difficile pour le Maroc. Il n'était pas encore indépendant
et donc protectorat français.
Mm-hmm. Même si lui n'était pas français au sens de la nationalité, il était marocain. Mm-hmm. Et donc oui, au Maroc, il a été réhabilité depuis ces dernières années. Je pense notamment à un moment où j'ai participé à un colloque en 2010 à Marrakech où il y avait justement une sorte d'interrogation sur les sportifs marocains à l'étranger. Et Ben Barek est apparu comme une figure qu'il fallait célébrer. Mm-hmm. Les autorités marocaines ont pris ce moment de 2010 pour mettre en avant la figure de Ben Barek qui progressivement va apparaître dans des noms de rues, des noms de stades, des noms de gymnases, etc.
D'accord. Alors, vous avez dit qu'il n'était pas français, en effet. Néanmoins, il arrive en France en 1938 et pas en 39, comme le disait Thierry Roland. Oui. Donc, il arrive en 38 en France et très vite, il va endosser le maillot de l'équipe de France. Il va porter le maillot bleu, et notamment avec un match assez incroyable, Yvan, en Italie, pour un Italie-France, où là, eh bien, il y a un noir dans l'équipe de France. Et dans cette Italie fasciste, ça pose un vrai problème. Donc, l'équipe de France est sifflée pendant tout le match à cause de ce noir de peau, on va pas se mentir. Et là, Ben Barek a deux réponses géniales. Il chante la Marseillaise à tue-tête. pendant l'hymne national. Et surtout, il est resplendissant sur le terrain. C'est une trempe incroyable, c'est du panache, Ben Barek.
C'est du panache. Alors effectivement, c'est une très belle histoire, ce match joué par l'équipe de France à Naples, en décembre 1938, effectivement. Oui. Alors on est après la Coupe du Monde, où la France avait déjà perdu contre l'Italie en quart de finale, et avait donc d'une certaine manière laissé sa Coupe du Monde à l'Italie, hein, puisque l'Italie a gagné la Coupe du Monde. Donc c'est une équipe championne du monde qui rencontre l'équipe de France.
C'était en France, la Coupe du Monde.
La Coupe du Monde était en France, mais ce match a lieu à Naples. Voilà. Effectivement, dans cette Italie fasciste galvanisée, on siffle la France, et en particulier ce noir, hein, une sorte de tradition en Italie qu'on retrouvera plus tard, compte tenu de ce racisme qui pouvait déjà exister à cette époque-là. Et Ben Barek, effectivement, peut-être c'est un déclic pour lui, parce qu'il vient d'arriver, il est arrivé
quelques mois
auparavant, au mois de juillet, où en fait il va jouer à l'Olympique de Marseille dans un premier temps, et très vite il monte les échelons. Lui qui a joué, il a été dit dans le petit pastille sur Casablanca, hein, notamment à l'Idéal, hein, traverse la Méditerranée, gagne en notoriété et devient ce joueur emblématique de l'Olympique de Marseille, club déjà très important en France, et en plus emblématique de l'équipe de France, puisque dès les premiers pas dans cette équipe de France, il apparaît comme un joueur incontournable, brillant, immédiatement incontournable en quelque sorte. Et oui, peut-être que c'est sifflé, alors sifflé contre la France ou contre lui, lui qui n'est pourtant pas de nationalité française, représente peut-être déjà une équipe, on pourrait dire presque métissée,
bien sûr.
Qui d'une certaine manière met en scène cette France qui va déjà à cette époque, alors il n'est pas le premier à être un joueur issu de l'autre côté de la Méditerranée, on peut penser à Abdelkader Belbari ou à Ali Benouna, qui ont tous deux caractérisé les premiers joueurs venus d'Algérie. Mais il y a aussi à cette époque-là, on pourrait y intégrer aussi des joueurs pieds noirs. On peut raconter l'histoire de Villaplane, qui a été le capitaine de l'équipe de France dans les années 30, qui ensuite finira dans la collaboration.
Mais destin étrange.
Et donc finalement, tous ces joueurs, et Ben Barek les caractérise peut-être au mieux, hein, représentent cet esprit de corps. Et ce match de Naples est un match très important, parce que pour Ben Barek, c'est véritablement l'intronisation comme un joueur pleinement français en quelque sorte.
Et en 1954, Yvan Gesto, Ben Barek joue son dernier match avec l'équipe de France contre l'Allemagne. Premier match diffusé en direct à la télévision française. Il sort à la 23e minute sur blessure, avec une ovation du public français. Et c'est là où il est intéressant, Ben Barek, c'est qu'il est le trait d'union de la Méditerranée. Il est marocain, il est populaire au Maroc, mais il appartient aussi à l'histoire du foot français.
Et oui, alors Ben Barek est un joueur d'une grande longévité. Hein. Il a commencé en 38 et fini en 54, mais il y a peu de matchs, finalement 16 sélections en 16 années, vous voyez, donc quasiment une par an, parce qu'il y a la guerre au milieu. La décolonisation, c'est compliqué sur le plan politique, il n'est pas à la bonne période. Mais néanmoins, il se tire de cette situation pour arriver à devenir quand même une grande star. Et effectivement, en 54, c'est un moment compliqué, c'est sa fin de carrière, et c'est un moment qui se situe en octobre 54. C'est intéressant parce que c'est les débuts de la guerre d'Algérie, octobre 54.
Bien sûr.
Et en fait, il y a deux matchs qui sont couplés. Il y a un premier match qui est la fin, on pourrait dire, de la carrière de Ben Barek présumée, puisqu'il y a un match que la France organise contre une province qui est l'Afrique du Nord. Et France-Afrique du Nord qui se joue à Paris, l'Afrique du Nord remporte le match 3-2 où Ben Barek marque pour l'Afrique du Nord.
Incroyable.
Un but. Et du coup, il est sélectionné pour l'équipe de France quelques jours plus tard. Il rencontre la RFA, bientôt, RFA. Qui est déjà championne du monde,
Miracle de Berne.
Voilà, Miracle de Berne. Et à ce moment-là, effectivement, vous avez raison de signaler que la télévision est un peu le moment de passation de pouvoir. Parce que Ben Barek, il est une star surtout reconnue pour son nom, mais pas tellement pour ses frasques sur l'écran, parce que finalement, on ne l'a pas vu. Et donc, c'est assez marrant que sa carrière se termine par le premier match télévisé.
23 minutes à la télévision, où on a pu voir Ben Barek avec le maillot bleu. Pour terminer avec Ben Barek, il est mort en 92 à Casablanca. C'est un peu tragique, Yvan, parce qu'il va mourir tout seul. On va retrouver son corps une semaine après sa mort. Fin cruelle pour une vedette mondiale qui a totalement fini dans la solitude immense.
Vous posez là une question qui est très importante pour les footballeurs du monde arabe en général, mais aussi d'autres types de footballeurs de cette époque, c'est-à-dire le problème de la reconversion. Vous avez entendu dans le reportage initial le fait qu'on évoque Ben Barek en 63, il est déjà à la retraite depuis presque 10 ans, et il s'occupe des gamins de Casablanca à ce moment-là, donc il a eu un temps, une sorte de reconversion dans l'éducation, mais ça n'a pas duré, et encore Ben Barek est une star à cette époque-là. Le reportage que vous avez diffusé le présente chez lui à Casablanca, où une partie de sa maison est musulmane, avec un salon musulman et tout ce qui va avec, et puis l'autre partie est européenne avec un réfrigérateur, etc. Et Ben Barek représente cet entre-deux qu'il a représenté à travers le football, ses origines marocaines et sa carrière européenne, espagnole, française également. Mais en revanche, effectivement, très tôt, à l'époque, un athlète aussi spectaculaire soit-il,
et célèbre soit-il,
n'avait pas la capacité forcément à durer après. Il n'était pas consultant, il n'était pas entraîneur, et donc il va effectivement finir dans la misère, et terriblement dans la misère, puisqu'en 1992, tout le monde l'avait oublié.
Tout le monde l'avait oublié.
Et il est mort seul.
Oui, tout seul, tout seul. Une semaine, son corps, avant qu'on retrouve son corps, c'est quand même assez effroyable. Donc j'encourage, pour terminer avec lui, tous nos jeunes auditeurs qui ne connaissent pas l'Arbi Ben Barek, d'aller chercher un peu des informations et d'aller à l'exposition voir ce très beau portrait de l'Arbi Ben Barek. Ensuite, il y a une deuxième salle, Yvan Gastou, qui est consacrée notamment au FLN, à l'équipe du FLN en 1958. Là, est-ce qu'on a déjà parlé de cette histoire dans cette émission? Est-ce qu'on peut résumer en quelques mots ce que c'est que cette histoire du FLN?
En quelques mots, c'est une histoire politique, c'est une histoire de vie assez incroyable. Hein. C'est l'histoire d'une journée de championnat de France comme on l'a aujourd'hui, par exemple. Et le soir, la plupart des joueurs professionnels algériens des clubs français disparaissent totalement.
Dans la nuit, ils disparaissent
dans la nuit. Le lendemain, ils manquent à l'appel de leur club. Et donc, oui. On apprend qu'ils sont passés par la Suisse et ils sont arrivés à Tunis, où ils vont composer l'équipe du FLN, c'est-à-dire l'équipe d'Algérie en devenir
indépendante.
Voilà. C'est une histoire qui a été depuis ces dernières années racontée, notamment une bande dessinée de
Chris qu'on embrasse.
Voilà, un maillot pour l'Algérie qui le met très bien en scène. Il y a des choses qui ont été dites et cette exposition le met en avant parce que c'est un moment important, parce que ça montre comment le football peut être dans le monde arabe et en particulier en Algérie ici un élément qui va jouer dans le cadre politique, parce que ces joueurs, ces footballeurs parmi lesquels Rachid Megloufi ou Mustapha Zitouni, Megloufi joueur de Saint-Étienne,
grande star,
joueur de Monaco, tous deux ont laissé échapper leur carrière professionnelle, pendant un temps en tout cas, pour Mekhloufi, et sont devenus des acteurs politiques. Et cette équipe du FLN est une équipe qui est vraiment très emblématique, au-delà même de l'Algérie, puisqu'aujourd'hui cette histoire est enseignée, est évoquée et rappelée. Pendant longtemps, on l'a un peu laissé de côté, parce que le football n'avait pas tant d'impact, mais aujourd'hui, à l'heure où le football a pris une grande importance, cet épisode est un épisode extrêmement fondateur et même éducatif.
Une équipe très politique qui est allée faire rayonner l'Algérie partout dans le monde. Cette équipe du FLN est allée jouer partout des matchs alors qu'on se battait au pays pour l'indépendance. Puisqu'on parle de Rachid Megloufi, il y a un moment que je voudrais évoquer du football algérien. Nous sommes en 1982 à la Coupe du Monde. 82 pour nous c'est France-Allemagne, Séville. Mais vous allez voir que quelques jours plus tôt, Rachid Megloufi, qui est le patron de l'équipe sur le banc, il est entraîneur, il va réussir un exploit hallucinant.
On passe maintenant au groupe 2 et au match RFA-Algérie. La victoire de l'Algérie, c'était du 100 contre 1. Et pourtant, vous savez ce qui s'est passé. 7 chances sur 100, ils ont su la saisir. Majder ouvre la marque à la 52e minute de la rencontre. 1-0 pour les joueurs de Rachid Megloufi. Et on va assister à ce qui restera peut-être l'exploit de ce mondial, c'est-à-dire la victoire de l'Algérie. À noter que dans cette équipe d'Algérie joue trois joueurs qui opèrent habituellement en France, Daleb, Kourichi et Mansour.
Quel match incroyable, Yvan Gastou. Alors cette équipe d'Allemagne, on la connaît bien, on l'a croisée nous quelques jours plus tard, donc c'est Paul Breitner, absolument, c'est Schumacher, c'est Rummenigge. Les Algériens ont battu la RFA 2-1, c'est un match fondateur pour tout le Maghreb, Yvan, pas que pour l'Algérie.
Absolument d'accord avec vous, c'est un match fondateur pour le Maghreb, c'est un match fondateur aussi pour le monde arabe globalement, parce que cette Coupe du Monde 82 est extraordinaire à tous les sens du terme. Mais effectivement ce match est un match qui est resté dans la légende des spectateurs de football, tant cette équipe algérienne a surpris par sa qualité de jeu. Je pense notamment au meneur de jeu Belloumi, qui était un grand joueur. Assad, qui est venu ensuite jouer à Mulhouse. Bon, donc cette équipe a surpris l'équipe qui va devenir championne du monde. Et effectivement, il y a là une sorte de dimension extrêmement
forte. Ils iront en finale.
Qui va aller en finale, pardon.
L'Italie est championne du monde.
Je dis championne du monde parce que je pense au cauchemar de Séville.
On pense qu'ils sont champions du monde, mais ils ont perdu 3-0 en finale contre l'Italie.
Ils ont perdu 3-1, je crois.
Enfin bon, je crois qu'il y a 3-0.
Voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a cette dimension extrêmement fondatrice. Et d'ailleurs, il faut savoir que cette équipe était très suivie par les travailleurs immigrés en France.
Bien sûr.
Et pour la première fois, puisque la télévision ne montrait que les matchs de l'équipe de France, à ce moment-là, il y aura des fan zones. Les premières fan zones sont créées par les travailleurs immigrés pour qu'ils puissent regarder les matchs de l'Algérie. Donc il y a une sorte d'engouement extraordinairement spectaculaire pour cette rencontre. Et on pensait que l'Algérie, ce souffle pourrait aller plus loin, pourrait peut-être se qualifier pour le second tour. Ça n'a pas été le cas, par un jeu de circonstances
On va en parler deux secondes. Il y a le match de la honte après. Parce que évidemment, il y a un match décalé entre l'Allemagne et l'Autriche.
Le match des puissances centrales.
On ne fera pas de commentaires. Allemagne, donc Autriche. Si l'Allemagne gagne 1-0 contre l'Autriche, les deux équipes sont qualifiées aux dépens de l'Algérie. Et qu'est-ce qui se passe? L'Allemagne marque un but assez vite. Et après, pendant 70 minutes, ils font la passe à 10. Ils ne jouent plus. Donc ils ont volé les Algériens, clairement. Alors, c'est l'interstice du règlement, mais ils ont quand même pas joué le match, ils ont volé les Algériens, ce qui est terrible pour le monde arabe et pour le Maghreb aussi.
Ah oui, l'Algérie a été très amère de cette défaite, parce que l'équipe méritait sans aucun doute d'aller plus loin.
Bien sûr.
Et cette alliance, qu'on pourrait symboliquement présenter comme politique, l'Allemagne et l'Autriche, a été au détriment de l'Algérie, quelque chose qui a été mal vécu, et en même temps, voilà, un peu comme pour la France, un peu plus tard, il y aura cette défaite glorieuse, en quelque sorte, qui va marquer cet épisode.
Absolument. On va continuer à parler foot et monde Andara. Pour l'instant, il est 18h35 sur Inter. C'est l'heure de l'orchestre emmené ce soir par Jesse Andara. Le titre joué, Saying Goodbye, ainsi soit-il.
Mohamed Salah, dit Mo Salah, en quelques mois, ce joueur de 25 ans est devenu une star tant en Grande-Bretagne que dans son pays d'origine, l'Égypte, et dans tout le Moyen-Orient.
Philippe Collin.
Mo Salah réconcilie tout le monde. Or, l'Égypte avait désespérément besoin d'une figure unificatrice. Mo Salah est pieux, son épouse discrète, sa fille s'appelle Makka, du nom de la ville sainte de l'islam, la Mecque. Mais à 25 ans, il est la figure même d'une modernité musulmane heureuse et décomplexée.
Sur France Inter.
Mohamed Salah, joueur vedette de Liverpool et star du football mondial aujourd'hui. Il fait la une du Time cette semaine, rendez-vous compte, au pays de Donald Trump. Mohamed Salah, adulé en Égypte, pays où le football est ancré depuis très longtemps. Et d'ailleurs, dans cette exposition proposée par l'Institut du Monde Arabe à laquelle nous consacrons cette émission ce soir, on prend conscience à quel point l'Égypte et le football sont liés depuis très longtemps. C'est une histoire qui raconte ce pays tout au long du XXe siècle.
L'onde de choc du football se répand depuis la Grande-Bretagne, gagne le reste de l'Europe et envahit l'Afrique à travers le maillage colonial dès 1885. Au début du XXe siècle, l'Égypte n'est pas une colonie, mais un dominion. Les Britanniques l'administrent, mais ne la dirigent pas directement. Sous ce statut de semi-indépendance, elle possède toujours un roi, une aristocratie puissante. Les élites égyptiennes brûlent de récupérer leur pays. Le football va jouer un rôle décisif dans cette lutte. La jeunesse instruite de l'université Al-Azhar crée, imitant le colon, le club de football Al-Ahli dans un pur esprit de résistance. C'est le premier club de football de tout le continent africain.
Yvan Gassot, je rappelle que vous êtes historien et commissaire scientifique de cette exposition à l'Institut du Monde Arabe, dans laquelle on découvre en effet à quel point l'Égypte et le football sont liés. C'est sans aucun doute la plus grande nation du football du monde arabe. Ils sont tout le XXe siècle est lié au football en Égypte. C'est assez incroyable.
Oui, l'Égypte est au cœur du monde arabe géographiquement, on pourrait dire. Et c'est aussi au cœur du football qui se développe dans le monde arabe, comme l'extrait vient de le dire. Hein, c'est effectivement en grande partie par l'influence britannique que le football se développe très précocement en Égypte. Et l'Égypte va être ce pays qui, avant tous les autres, va avoir des structures.
En 1907, premier club égyptien, incroyable, Al-Ahly.
1907, Al-Ahly, alors effectivement. Mais par exemple, le football égyptien est déjà présent au tournoi olympique d'Anvers en 1920. Il est présent aux Jeux olympiques de 1924-28. Il finit quatrième en 28.
Incroyable.
Et puis l'Égypte participe, ça a été très rare à l'époque, à la Coupe du Monde 34 en Italie.
Et oui.
Et alors, elle passe pas le
premier
tour,
pays du monde arabe à se qualifier pour une Coupe du Monde.
Premier pays du monde arabe à participer à une Coupe du Monde. Et puis il y a une chose qui est assez intéressante par rapport à Mohamed Salah, c'est que il y a eu déjà des embryons de Mohamed Salah à cette époque-là, puisque l'attaquant Hussein Eghazi, dans les années 20, a joué dans deux clubs britanniques, Millwall et Fulham. Voilà un attaquant égyptien qui dans les années 20 était très peu
connu. Ce qui paraît très naturel aujourd'hui, mais à l'époque c'était ahurissant.
Ahurissant. Il y a même eu un gardien de but au Spark Rangers, qui était égyptien dans la saison 38-39. Donc, il y a effectivement comme ça quelques embryons qui montrent qu'effectivement le football en Égypte était un football très précurseur dans le monde arabe et l'Égypte restera, notamment au moment de la révolution nassérienne, ce pays précurseur en matière de football. Il y a une chose qui est importante aussi à dire, c'est que le monde arabe est fracturé en termes de répartition géographique. C'est assez intéressant de voir que l'Égypte, comme le Maghreb, joue et regarde l'Afrique dans les qualifications, alors que le Golfe Persique, le Proche-Orient jouent du côté de l'Asie, et qu'Israël est isolé avec l'Europe, en quelque sorte.
Oui,
et donc, l'Égypte
est
ce pivot qui va quand même être fondateur, on pourrait dire, de la Confédération africaine de football, puisqu'en 57, le siège de cette Confédération africaine de football se situe au Caire. Donc, l'Égypte apparaît véritablement comme, finalement, ce pays qui va dominer aussi le football, alors, au Maghreb, au Machreg, mais aussi en Afrique, remportant cette fois la Coupe d'Afrique des Nations.
Il y a aussi au Caire un derby. Un derby, c'est deux clubs de proximité géographique qui s'affrontent. Un derby entre Al-Ahly et Zamalek. J'ai pas tout compris les enjeux de ce derby. Qu'est-ce que ça raconte, ce derby Cairote?
Vous avez tout à fait raison d'évoquer les derbys. Les derbys, c'est quelque chose qui, dans le monde arabe, est extrêmement, extrêmement sensible, extrêmement émotionnel. Dans cette exposition, la passion est un élément central et on fait bien d'évoquer aussi ce qui est autour du terrain, c'est-à-dire les supporters, puisque le derby Cairote est un derby qui est très passionnel, parfois très violent aussi.
Paraît-il très très chaud.
Oui. Très très chaud. Alors, effectivement, Al-Ahly et Zamalek sont deux clubs qui ont été créés très très précocement. Vous l'avez dit tout à l'heure, 1907 pour Al-Ahly, 1911 pour Zamalek. Et pour le dire rapidement, le différentiel serait en termes de niveau social.
D'accord.
Al-Ahly serait le club du peuple, qui était au départ d'emblée un club volontiers nationaliste. Et Zamalek était le club plus métissier, c'est-à-dire avec des personnes locales, des joueurs locaux, mais aussi des représentants de la colonisation. Et il y aura une sorte comme ça d'évolution parallèle, qui va se transformer en faisant simple avec l'idée du club des pauvres Al-Ahly et le club des riches Zamalek, même si ne nous l'aurons pas, à partir
c'est
de 52, beaucoup
de
dirigeants égyptiens nassériens étaient des partisans d'Al-Ahly et donc sont devenus une forme de bourgeoisie aussi. Mais en tout cas, ce derby est un derby extrêmement chaud, extrêmement sensible, qui a marqué notamment les supporters à certains moments. Je pense à tout le temps la saison 71-72 qui a été interrompue à cause de violences qui se sont déroulées à l'occasion de ce derby. Un derby qui ne se joue pas dans les stades dédiés, qui se joue ailleurs pour essayer justement d'éviter trop de conflits se développer.
On vient de parler un peu des supporters, Yvan Gassot. C'est vrai que dans le monde arabe, les supporters, les ultras, comme on dit, ont joué un rôle très important hors du stade ces dernières années. Les printemps arabes, par exemple, les ultras, place Tahrir, les ultras sont là. Mais y compris en Algérie, il y a quelques semaines, la contestation contre Bouteflika, elle est passée par le stade. Les chants contre Bouteflika sont des chants du stade. Dans le monde arabe, c'est quelque chose de très important, le supporter.
Vous avez tout à fait raison. C'est effectivement quelque chose qui vient aujourd'hui se placer au devant de la scène politique. N'oublions pas une petite anecdote, quand on parlait des insurgés algériens pendant la guerre d'indépendance, on parlait des hooligans. On disait le mot hooligan.
Oui.
Et finalement, cette sportivisation s'accomplit au début des années 2000, on peut le comprendre. Le football est tellement important dans le monde arabe, en Algérie, en Égypte, que ce qui se passe dans le stade ne peut pas être en dehors de la société. Et donc oui, au moment des printemps arabes, le football a joué un rôle fondamental et on se rend compte aussi que dans les manifestations à l'encontre du président Bouteflika, ce qui se dit dans les tribunes, c'est souvent ce qui se dit dans la rue.
Et
certaines certaine manière, il y a une sorte de parallélisme ou de lien, au contraire, plutôt, entre...
Et ça déborde.
Et ça déborde.
Ça déborde,
voilà.
Du stade, ça va dans la rue.
Ça déborde du stade, ça va dans la rue. Et ce qui va dans la rue vient parfois dans le stade, puisque le stade est un formidable moyen d'expression.
Absolument.
Et des slogans émergent des tribunes.
Un mot sur Mohamed Salah, donc ce joueur vedette égyptien de 26 ans aujourd'hui, dont je répète, il fait la une du Time cette semaine. Il a une lourde responsabilité, Mohamed Salah, sur les épaules. À 26 ans, il est l'incarnation d'un peuple, on va dire, réuni en Égypte, mais à 26 ans, c'est lourd de porter ça.
Oui, c'est une vedette d'une autre dimension.
Oui,
c'est-à-dire que le monde arabe entre avec lui dans une autre dimension, l'Égypte entre avec lui dans une autre dimension, lui qui est né dans la rue. Hein. Enfin, c'est une image peut-être un peu comme ça, caricaturale.
Mais c'est la vérité.
Mais c'est la vérité, un peu comme Ben Barek, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il était originaire d'une centaine de kilomètres au nord du Caire, il a vécu, il a joué au football dans le Delta du Nil, là, dans les champs proches du Delta du Nil, et c'est comme ça qu'il a appris à jouer au football. C'est devenu une vedette extraordinairement populaire. Alors, il n'a pas encore porté son pays au-delà de la qualification, puisque en Russie, l'Égypte n'a pas passé
au premier tour.
Voilà.
Oui,
Mais il était blessé.
Il
était blessé, c'était le bon moment pour lui. Mmh. Mais on peut penser qu'à 26 ans, il a encore une marche de progression.
Pour ramener l'Égypte
au-delà. Qui permettra effectivement d'amener l'Égypte et finalement le football arabe au-delà d'une dimension simplement régionale, en fait.
Dans l'exposition, on apprend, ça m'a fait sourire, que donc les crampons de Mohamed Salah ont été transportés dans la section antiquité égyptienne au British Museum. Ça donne une petite pression sur les épaules quand même. Genre, le gamin, il n'a rien demandé à personne.
Ça lui donne une dimension patrimoniale.
Voilà, il est avec les pharaons, tout ça, c'est quand même assez particulier. Quand
oui,
même.
On a des caricatures de Salah en pharaon.
Mais bien sûr, oui, bien sûr. Donc c'est assez spécial. Il y a une autre salle qui est très importante dans l'exposition, Yvan Gasto, c'est la Jordanie. Pourquoi ? Parce que là, on s'aperçoit qu'en Jordanie, le football est très féminin, notamment sous l'impulsion du prince Ali. Monde arabe, football, vecteur d'émancipation des femmes, peut-être. Là, c'est intéressant aussi.
Effectivement. Alors, l'exposition s'intéresse aussi à quelque chose qui émerge. Alors, vous voyez, dans le monde arabe, tout autant qu'en Europe, la présence des femmes dans le football, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes, chose qui, pendant longtemps, a été complètement délaissée, ignorée.
Et même 5 ans, 10 ans, c'était impossible. Improbable.
Absolument, 5 ans, 10 ans. Par exemple, la Jordanie est sans doute, dans le monde arabe, un pays pionnier dans ce cadre-là, parce qu'il y a le soutien de l'État, et en même temps, l'équipe nationale de Jordanie a été créée, féminine, de Jordanie, a été créée en 2005, faisant un très beau parcours. Et alors, on n'a pas encore un pays arabe qui est qualifié pour la phase finale.
La prochaine Coupe du Monde qui arrive en été prochain, il n'y a pas d'équipe féminine du monde arabe. Ça n'existe pas encore.
Il y a une sorte encore de marche à atteindre, mais que ce soit d'ailleurs en Jordanie ou aussi en Algérie d'ailleurs, hein, où la fédération ouvre la porte, on pourrait dire, à la pratique du football féminin. Évidemment, c'est quelque chose qui a un enjeu sportif de premier plan, c'est-à-dire finalement au diapason de l'Europe où le football féminin se développe fortement ces dernières années, le monde arabe est à peu près dans les mêmes perspectives qui sont à la fois des perspectives sportives mais aussi des perspectives socioculturelles où finalement il y a un enjeu qui est au-delà du sport, c'est que les femmes pratiquant le football sont engagées dans un processus d'émancipation que le football traduit de manière absolument intéressante. Hein. Rappelez-vous de ce film Joula comme Beckham en 2002 qui évoquait, alors on est en dehors du monde arabe, mais ces jeunes immigrés indo-pakistanaises qui rêvaient de faire du football, mais elles mentaient à leurs parents pour dire qu'elles allaient faire de la danse. Et le football, c'était pas pour les parents issus de l'immigration un débouché potentiel pour une jeune fille. Et bien, c'est un peu pareil dans le monde arabe où ces filles essaient de diffuser un message qui est un message d'émancipation et de liberté.
Alors justement, Yvan Gasto, elle est sous-titrée cette exposition, La Révolution du ballon rond. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Est-ce qu'on vient de parler depuis une demi-heure de Mohamed Salah, de ces femmes qui s'émancipent ? Est-ce que le football peut justement influer sur la société du monde arabe plus qu'on ne le pense peut-être ? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi, ça, la révolution
du ballon ? Alors, le mot révolution, c'est un mot évidemment à plusieurs entrées, on pourrait dire. Hein. Et il me semble qu'il y a la dimension révolution au sens où on vit en ce moment. Et cette exposition, elle se situe dans un temps de révolution. Si on peut considérer la séquence chronologique commencée en 2011, n'est pas totalement close, on n'en sait rien. Si on pense à l'Algérie qui tombe peut-être à point nommé pour cette exposition, il y a déjà une dimension, disons, liée aux politiques.
Donc, bien sûr.
C'est le football qui accompagne les révolutions du monde arabe, ça c'est un premier aspect, mais dans un deuxième temps, il y a aussi une révolution socioculturelle qui peut-être laisse présager que le 21e siècle, en tout cas ce qu'il en reste, sera très important dans le monde arabe en matière de football, de pratique du ballon rond, aussi bien à travers les pépites qui vont sortir, comme Mohamed Salah, que l'importance, l'impact que ça a dans les tribunes, à la télévision. Le monde arabe respire le football, se passionne pour le football, est complètement parfois hanté par les rencontres, que ce soit les derbies, on en a parlé, que ce soit les équipes nationales, on se rappelle. Alors que ce soit aussi des oppositions internes. Rappelez-vous ce match inouï d'appui entre l'Algérie et l'Égypte, deux grands pays
du football,
pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2010, qui s'est jouée à Khartoum, autre pays du monde arabe, oui, dans une tension extrême, voyant l'Algérie finalement se qualifier in extremis.
Je voudrais qu'on revienne au tout début de l'exposition. Yvan Gastou, il y a, c'est tout petit, mais c'est très très beau, il y a des photos. Il est de 1929, d'équipes de Libanais et de Syriens qui vont jouer à Beyrouth. Ces photos, elles m'ont troublé parce que il y a une beauté déjà de ces photos, hein, des années 20. Et on prend très vite conscience à quel point le football est ancré dans ce monde arabe depuis très longtemps. Et ces photos, elles racontent quoi, Yvan Gastou ?
Ces photos, alors effectivement, c'est le fruit de recherches qui ont été menées par les équipes de l'Institut du Monde Arabe qui ont essayé de montrer effectivement l'ancrage dans le temps. Hein, cette révolution du football dont on parle, elle n'est pas celle des années seulement du 21e siècle. Elle est également marquée par un 20e siècle qu'on a souvent ignoré. C'est-à-dire que voilà, ces photos, elles ont une qualité esthétique, mais elles ont aussi une qualité, je dirais, de mise en scène d'un temps qui était un temps où le ballon rond, vous l'avez dit tout à l'heure, déjà à la fin du 19e siècle, commence à se développer et où finalement, les grandes villes du monde arabe n'ont pas été épargnées, je dirais, par cette fièvre du football dès les premiers temps. Et donc, que l'on pratique le football à une échelle de haut niveau, on pourrait dire, à travers certains joueurs qui vont pouvoir même aller au-delà du monde arabe, jouer en Europe, là où il faut jouer, mais aussi ces pratiques du quotidien, ces pratiques de la rue, où le ballon est toujours présent. Et le monde méditerranéen, le monde arabe, jusque même au golfe Persique, qui s'est à un moment donné réveillé à coups de pétrodollars, on pourrait dire...
À la fibre
footballistique, on voit une sorte de circulation du ballon rond depuis très longtemps.
En fait. Si on parle pour finir en une petite minute, si on parle un peu de soft power, certains esprits disent que cette exposition est au service de Qatar 2022, qui viendrait justifier le fait que bah oui, finalement c'est naturel, que pourquoi pas. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, c'est autre chose.
Mais écoutez, il y a effectivement dans l'exposition, et quand on réfléchit au monde arabe, un grand écart à faire entre ces pratiques qui sont liées à la colonisation, à l'immigration, on n'a pas non plus parlé des joueurs qui jouent en France, parce que le monde arabe n'est pas limité à simplement la géographie du monde arabe, mais aussi aux circulations de ces joueurs dans le monde.
Bien sûr,
il y a ce grand écart avec ce qui se passe du côté du golfe Persique, où à flot d'argent, on construit des stades, on organise une Coupe du Monde en 2022 qui va être une Coupe du Monde effectivement révolutionnaire. Alors peut-être pas la bonne révolution, je ne sais pas, mais en tout cas une Coupe du Monde qui va marquer son temps. Et il me semble qu'à cette occasion, il y aura une étape qui sera atteinte. Alors pour le bien, pour le mal, je ne sais pas, mais sachant quand même que le football est aussi quelque chose qui draine et qui engage des financements, et l'argent est souvent là où le football se trouve.
C'est tout à fait vrai. Merci à vous d'être venu ce soir. Je rappelle,
vous étiez excellent,
seul excellent. Je rappelle que vous pouvez profiter de cette belle exposition donc à Lima, comme on dit, la révolution par le ballon, foot et monde arabe, c'est jusqu'au 21 juillet prochain. Ne quittez pas l'écoute, car voici maintenant le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Rebonsoir Joy.
Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on dans ce Give Me Five ce soir ?
Eh bien, je ne veux pas vous faire languir plus longtemps. Le big up de la semaine revient au magazine France Football, qui a osé une une engagée, puisque sous la sempiternelle question « Êtes-vous Messi ou Ronaldo ?», le destin de la couve représente Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, hein, les deux footballeurs, en train de s'embrasser.
Sur la bouche.
Sur la bouche, on précise. Cette œuvre est signée de l'artiste milanais, un graffeur, un TV Boy, qui vit en Catalogne maintenant depuis près de 15 ans, et en fait qui avait réalisé en 2017 cette peinture sur un abribus du centre-ville de Barcelone, deux jours avant un classico entre le Barça et le Real Madrid. Alors évidemment, une telle une a fait réagir, c'était à prévoir, hein, donc un déferlement de commentaires haineux, homophobes, tout ce qu'on aime, hein, des internautes dont les comptes risquent, en tout cas je l'espère, d'être bloqués, et envers lesquels, on l'espère, hein, carrément des poursuites seront engagées. Il y a aussi eu, il faut le souligner, de jolis messages laissant espérer peut-être qu'une évolution des mentalités dans le foot est possible. Donc entre l'homophobie et le racisme, hein, il y a encore vraiment quand même bien des progrès à faire dans le monde du sport et du football, et dans ces conditions du coup on ne peut que féliciter le magazine France Football. Voilà, donc moi je suis pour ce dessin, pour cette couverture et pour Cristiano Ronaldo, voilà, qui depuis hier est le couronnement de la Juventus de Turin en Serie A, hein, donc le championnat italien, est devenu le premier joueur de l'histoire quand même à être champion en Première Ligue, donc c'est l'Angleterre, en Liga, en Espagne et en Serie A en Italie. Enfin voilà, ça c'était si vous me demandez mon avis, c'est dit.
Mais moi je suis d'accord avec toi Joy concernant Ronaldo et la une engagée de France Football, et c'est quand même un champion extraordinaire, trois fois champion dans les grands championnats européens. La suite Joy.
L'événement de la semaine, alors plutôt triste il faut bien le dire, c'est l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Donc le monde entier y est allé de son hommage, et dans le monde entier il y a aussi le club du PSG. Et oui, champion maintenant en plus. Et mercredi, lors du match en retard contre Nantes, les supporters parisiens avaient dévoilé une banderole. Le PSG, notre club, Paris, Notre-Dame. Et ce soir, face à Monaco, où ils seront donc,
ils
vont faire la fête en fait, finalement ils sont déjà champions de France depuis tout à l'heure, les Parisiens joueront avec un maillot spécial, un maillot floqué de la cathédrale parisienne. Voilà, donc à défaut de produire sur le terrain, c'est la petite pique du moment, à défaut de produire sur le terrain du beau jeu en ce moment, les Parisiens font de beaux gestes.
Maintenant on passe au tennis, où les institutions veulent épouser l'époque.
Ouais, c'est ça, alors c'est ça, être dans l'air du temps, hein, on va dire, puisque l'autre événement de la semaine, je vous en avais déjà parlé juste avant sa diffusion la semaine dernière, c'était le début de la diffusion de la saison 8 de la série Game of Thrones. Donc vous pouvez écouter la suite, hein, aucun spoil, n'ayez crainte dans cette chronique. Je voulais juste vous conseiller de regarder le clin d'œil réalisé par l'ATP, donc c'est le Session of Tennis Professionals.
C'est les patrons du tennis mondial.
Les boss du tennis, qui représente une affiche avec les 9 premiers du classement ATP, donc Novak Djokovic en tête, tous avec les yeux bleus, en référence aux marcheurs blancs qui sont des personnages de la série, et avec cette légende que les jeux commencent. Donc voilà, même si la photo est un peu flippante, faut dire, on aime quand la pop culture comme ça inspire le sport, j'adore.
Et d'ailleurs, on continue puisque tu vas nous parler de foot et de cinéma.
Ouais. Et alors, on s'en doutait et on a eu la confirmation cette semaine avec l'annonce de la sélection officielle du Festival de Cannes. Diego Maradona foulera le tapis rouge de la Croisette cette année.
Joie et bonheur.
Ah mais on est comme des dingues. Mmh. Puisque le documentaire d'Asif Kapadia consacré à Diego sera présenté à Cannes hors compétition. Donc pour mémoire, Asif Kapadia, hein, c'est vraiment ce cinéaste britannique génial qui avait réalisé les documentaires sur Ayrton Senna ou Amy Winehouse. Maradona, lui, on ne le présente plus, mais on se rappelle que la dernière fois qu'il était venu à Cannes, c'était en 2008 avec Emir Kusturica pour présenter déjà un film consacré à sa vie. Mais bon, il s'en est passé des choses depuis. Alors voilà, can't wait.
Moi, j'étais à Cannes en 2008 et j'ai croisé Diego aux toilettes. Voilà, je vous raconterai ça une autre fois, mais c'est la vérité.
Hashtag l'anecdote de Colin, merci.
Dans le palais du festival. Bref, et pour finir, Joy, ton conseil culturel du jour.
Non, mais à moins que tu aies une autre anecdote. Hein.
Non, vas-y.
Eh bien, l'aventure est une révérence faite à la beauté. Voilà. Alors, ce n'est pas de moi, ni de Diego Maradona, non, ni de Colin, non. C'est de Sylvain Tesson, le MC, le maître de cérémonie, enfin, le présentateur du 23e Festival International du film Aventure et Découverte, qui s'est clôturé ce jeudi dernier, là, ce jeudi 18 avril à Val d'Isère, et qui a récompensé de l'Aigle d'Or, donc la distinction la plus haute, mon conseil culturel du jour, le film qui s'appelle Ours simplement sauvage, réalisé par Vincent Munier et Laurent Geoffrion. Voilà, Ours simplement sauvage, ça raconte en fait la rencontre entre l'homme et l'ours des falaises au travers de 4 personnages. Donc il y a 2 naturalistes asturiens et 2 français. Donc l'homme et l'animal vivent sur le même territoire et doivent se le partager. Ça donne un film fascinant, un documentaire en fait impressionnant sur vraiment des aventuriers terrestres, hein, des temps modernes. Mais alors après, entre skieurs, alpinistes, parapentistes ou autres sportifs mis à l'honneur dans tous les films de ce festival, faut noter que le Grand Prix du public a été décerné au film qui s'appelle Les Voies de la Liberté, qui est un film de Mélusine Malander, qui retrace le tour du monde à moto de la réalisatrice. Alors là, on est bien loin de l'univers d'ours simplement sauvage, hein. Bitume à bloc, tout ça, voilà. Mais c'est tout aussi tentant. Guettez donc la sortie de tous ces films sur vos écrans, parce que voilà, c'est pas si fréquent.
C'est malheureusement des films qui ne seront pas tout le temps distribués, mais qui parfois, malgré leur qualité, d'ailleurs, sont passe près de chez vous. Il faut surveiller les affiches de cinéma. Donc ne les manquez pas si vous pouvez. Exactement. Merci, Joy, à la semaine prochaine.
De rien, bye.
Salut. Ciao. Et voilà, cette 33e émission de la saison 4 a été coachée ce soir par l'incontournable H2M, bien sûr, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté ce soir à la technique de Stéphane Boja. Merci à lui, merci à toute l'équipe de l'œil du tigre. Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin pour les Scuds. Et Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur Twitter, mais aussi sur franceinter.fr, bien sûr, pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec le destin d'un boxeur un peu oublié, qui se souvient réellement de Georges Carpentier, qui pourtant fut une immense vedette en France dans les années 20 et les années 30? Réponse next week. D'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine. On vous attend dimanche prochain dans L'Œil du Tigre à 18h sur Inter. Salut et fraternité.